Trump pendant la campagne a été très irrespectueux, grossier, espèce de racisme et d'intolérance. Il a libéré quand même beaucoup de paroles.
Très nombreuses sont les femmes qui ont conscience que le résultat de ces élections dit quelque chose contre les femmes ou contre le statut moderne des femmes.
Cette fois, ça touche les femmes blanches et pour beaucoup d'entre elles, pour la première fois de leur vie. Mais c'est comme ça que les gens de couleur sont traités ici depuis des décennies.
Donald Trump va-t-il mettre l'Amérique en marche? Et si oui, dans quel sens? À l'heure où le 45e président des États-Unis se prépare à prêter serment sur deux bibles superposées devant le Capitole à Washington, de nombreuses manifestations sont déjà annoncées et dès demain, au sein même de la capitale fédérale, une marche des femmes notamment sera organisée par des citoyennes américaines venues de tout le pays et de toutes origines, encore traumatisées par le sexisme affiché par Trump lors de sa campagne, déjà inquiètes des mesures qui pourraient être prises et du climat qui va régner en Amérique pendant 4 ans et en même temps bien décidées à résister. On a beaucoup parlé de Meryl Streep et de son discours anti-Trump lors de la remise des Golden Globes à Hollywood. C'était il y a une dizaine de jours. Un discours qui résonnait comme un avertissement au nouveau président des États-Unis. Un avertissement venu du cœur de cette Californie qui veut encore et malgré tout s'afficher progressiste et moderniste. C'est justement là, en Californie, que nous allons partir ce soir dans le magazine de la rédaction pour ensuite élargir le propos avec notre invité à l'ensemble du pays. USA, le deuxième sexe en première ligne, c'est un reportage de Nadine Epstein. Notre invitée ce soir, Caroline Roland-Diamond, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeure en histoire et en civilisation américaine à l'Université de Paris-Nanterre. Vous avez publié aux éditions La Découverte Black America, une histoire des luttes pour l'égalité et la justice du 19e au 21e siècle. On va vous retrouver tout à l'heure pour un entretien après la diffusion du reportage de Nadine Epstein. Bonsoir Nadine.
Bonsoir.
Comment les femmes américaines vont-elles résister, peut-être. C'est une des questions à laquelle vous avez voulu répondre avec ce magazine de la rédaction, tourné donc en Californie, où une marche des femmes est également prévue demain. Ce sera, il y en aura deux d'ailleurs, à Oakland et à San Francisco. En Californie, donc, où vous avez rencontré des Américains anxieux.
Anxieux, parce que la Californie a voté environ à 70% en faveur d'Hillary Clinton, voire beaucoup plus dans certaines villes, comme par exemple à Oakland, Donald Trump n'a obtenu qu'à peine 4%. La Californie, qui est donc bien bleue, bien démocrate dans l'opinion publique, mais aussi dans les institutions, s'est réveillée le 9 novembre avec la gueule de bois, et je ne compte plus le nombre de fois où les Américaines et les Américains m'ont dit qu'ils étaient très inquiets de ce qui va se passer durant ces 4 années du mandat de Donald Trump, certains rêvant même déjà qu'à mi-mandat, le républicain perde la majorité au Congrès. Il faut dire aussi que la Californie est également une bulle. C'est la 7e économie mondiale grâce à la Silicon Valley et à Hollywood. Et d'un côté, elle est progressiste puisqu'elle a adopté des lois en faveur de l'avortement, des LGBT, du mariage gay, de la libération du cannabis par exemple. Mais dans le même temps, la peine de mort est maintenue et les violences policières bien présentes. C'est à Oakland qu'est né le mouvement Black Lives Matter et avant lui, les Black Panthers. Cela dit, face aux inquiétudes, dues au fait aussi que Donald Trump peut déclarer une chose et se contredire le lendemain, et en dehors des manifestations qui auront lieu demain, l'État californien s'est entouré de brillants avocats et juristes pour pouvoir réagir au cas où le nouveau gouvernement faisait la chasse aux émigrés, par exemple.
On vous retrouve tout à l'heure aussi, hein, Nadine Epstein. Votre reportage débute à Oakland.
Je m'appelle Harriet Sage. Et je suis une psychothérapeute.
Est-ce que votre travail a un lien avec la politique?
D'habitude, non. Mais quand Trump était élu, il y a beaucoup de mes patients qui étaient très déprimés et avaient peur de ce qu'il arrivera. Et c'est important de parler de qu'est-ce qu'il va arriver avec Trump.
De quoi ils avaient peur?
Parce qu'il est dangereux, il est un démagogue et il est très narcissique. Et il ne s'en fiche des autres. Il est un liar, menteur. Et il est raciste. Est-ce qu'il y a assez?
De quoi vous avez peur avec l'arrivée de Trump? Qu'est-ce qui peut changer, qui vous fait peur?
Supreme Court pour abortion.
La Cour suprême, l'avortement.
Aussi la santé nationale. Aussi, il y a le droit sur le bouton nucléaire.
Est-ce que ici à Auckland se préparent des manifestations pour le jour de l'investiture?
C'est pour le jour après l'investiture, c'est le 21. Il y a une femme en Californie qui a écrit à ses amis à Facebook et dit « Faisons quelque chose au sujet de l'investiture ». Et ce soir, il y a 40 amis qui ont écrit « Oui, sûrement ». Et le premier matin, il y a 10 000 personnes qui ont dit « Oui ». Et après ça, maintenant, il y a presque 100 000 personnes à Washington et maintenant, surtout les États-Unis, pour dire « Nous n'avons n'approuvons pas de ces idées et après ça, pour 4 années, nous allons faire ça. On va protester.
Vous y allez, vous?
Oui, bien sûr. Et mon fils et des amis et des jeunes gens, mes grands enfants.
Pump up the volume. It's time for a little girl power. The day after the election, 250,000 women are expected at the Women's March on Washington. Sister marches
bonjour.
Are also expected.
Ma fille aînée va participer aux marches des femmes et c'est essentiel. Mes enfants qui ont 20 ans et 17 ans, ce sera plus grave pour les femmes, pour les homosexuels, pour toutes les minorités ethniques et ce que nous devons être conscients pour ne pas lui permettre de nous segmenter, pour ne pas penser au matin, oh, ce n'est pas pour nous, c'est quelque chose qui arrive à quelqu'un d'autre. Non, ça arrive à chacun de nous. Ça commence de là. Donc, s'il décide de faire vraiment la registration des musulmans, je serai la première de registrer. J'imagine que tout Auckland registrera. Chacun, comme un musulman, pour ne pas permettre d'avoir une registration de ça.
Est-ce que vous allez aller à la manifestation des femmes?
Oui, bien sûr. Paloma. Pour moi, c'est un problème de culture, pas de législation, parce que Trump représente une personnalité qui a beaucoup de haine, pour personnes différentes que lui. Il y a déjà beaucoup de crimes contre les minorités et des femmes et des homosexuels.
Brigitte, je ne suis pas américaine, mais je suis aux États-Unis depuis 1979. Pour moi, je résumerai en disant que ce que l'actrice Meryl Streep a dit récemment, ça résume tout. C'est exactement ce que je voudrais dire à propos de celui qui va être notre président. Les insultes vont donner naissance à d'autres insultes. La violence ne fait qu'engendrer la violence et la haine, la haine. Donc, avec lui, il n'y aura plus de limites. Et tout sera acceptable. On a l'impression que parce qu'on occupe une position de pouvoir, on peut manipuler et on peut abuser complètement des gens et en particulier des femmes, puisque ce sont les premières envers lesquelles il a manqué de respect. C'est évident qu'il s'entoure d'un certain type de femme.
I took out furniture. I moved in her like a bitch, but I couldn't get there. And she was married. And all of a sudden, I see her. She's now got the big phony tits and everything. She's totally changed her look.
She's your girl's hot as shit.
Beaucoup de femmes et d'hommes d'ailleurs qualifient Donald Trump de misogyne. De la taille de son phallus, dont il s'est publiquement vanté, à ses propos obscènes pour lesquels il a dû s'excuser, en passant par sa réputation de coureur de jupons et quelques soupçons de harcèlement sexuel et ses explications arriérées sur les agressions sexuelles dans l'armée dues à la mixité, beaucoup s'inquiètent de l'impact que cela aura. Yvette Shalom, présidente de l'Association démocratique des Français de l'étranger, devenue citoyenne américaine, installée aux États-Unis depuis plus de 30 ans.
Mais c'est parti de femmes parce qu'il a été, enfin Trump pendant la campagne a été très irrespectueux, grossier. Il a libéré quand même beaucoup de paroles. les gens qui pensent peut-être, enfin, je ne sais pas s'ils pensent pareil, mais en tout cas, qui ont envie de dire ce genre de choses. Et ça les a amusés. Des femmes aussi, d'ailleurs. Il y a pas mal de femmes qui trouvent que c'est très viril, ce genre de choses. C'est quand même des choses qui sont ancrées depuis très longtemps. Et un homme viril, c'est attirant. Voilà, quoi. Et Obama est, pour pas mal de personnes, et pas mal de femmes aussi, trop intellectuel, un peu froid, un peu... Justement, c'est pas cette image de virilité que beaucoup de gens, finalement, admirent encore de nos jours.
Et vous pensez que Trump peut s'attaquer aux droits des femmes ?
Ben, il peut essayer de renier les acquis. Les acquis, mais c'est plus pernicieux, je crois, que d'essayer d'affaiblir les lois. Il y a un état d'esprit qui s'infiltre de plus en plus chez les gens. Et la violence domestique, par exemple, elle sera plus acceptée, sans doute, par la population. Ça peut être un petit peu plus excusé qu'avant. T'es pas assez sexy. C'est quand on regarde la fille de Trump, la femme de Trump, voilà. Donc, des choses comme ça. Je crois que ça va être beaucoup plus pernicieux dans l'acceptance de certaines attitudes. Par contre, on s'est rendu compte que les actes de bonté spontanés sont plus visibles. Bon, par exemple, dans certaines vitrines, vous disiez que vous aviez vu Black Lives Matter, mais il y a aussi, dans certaines vitrines, la photo d'une femme avec un foulard, en disant que les immigrés sont bien accueillis ici, on accepte bien les immigrés. Il y a plus d'entraide, j'ai vu d'autres gens le faire, aller acheter un sandwich à des gens qui font la manche. J'ai travaillé beaucoup dans ce qu'on appelle les quartiers, en faisant des visites à domicile, et on voit des bagnoles avec de gros pneus, des drapeaux partout, le super blanc, qui sont assez effrayants, quoi. Ça existe en Californie, et en Californie du Sud aussi. Au sud de Los Angeles, il y a quelques endroits qui sont pas mal. C'est pas homogène. Il y a de plus en plus, il y a une résurgence d'actes agressifs contre la communauté LGBT, à San Francisco, alors que c'est quand même le berceau, voilà. C'est effrayant quand même. Les gens, maintenant, pensent qu'ils ont le droit. Sa parole a déjà libéré beaucoup de choses, même s'il n'avait pas été élu. Sa parole a énormément libéré. Cette espèce de racisme et d'intolérance qui existe chez beaucoup. Tous les gens qui ont des noms à consonance arabe, les musulmans, il y a eu beaucoup d'attaques contre les mosquées, l'antisémitisme qui ressort, des croix gammées dans l'université de Davis qui n'est pas très loin de San Francisco, dans les dortoirs et tout. Enfin, je veux dire, voilà, ça se libère. La bête redresse la tête. Ouais, c'est comme ça. Hein. Mais c'est triste, la communauté LGBT va souffrir, je crois, plus que les autres. Et puis les musulmans. Voilà.
Si, comme disait Simone de Beauvoir, le deuxième sexe est si anxieux de l'arrivée de Donald Trump, et au passage, de nombreuses Américaines et Américains évitent de prononcer son nom, c'est que les femmes qui se sont battues pour faire reconnaître leurs droits craignent maintenant que l'attitude du nouveau président et les changements qu'il envisage de faire ne les touchent au premier chef. Jocelyne Chiari, enseignante à Berkeley.
Ce que je perçois, c'est que dans les années 60 et les années qui ont suivi, la Californie était avant-gardiste. Je ne sais pas si elle l'est encore, j'en doute. Et pour moi, la preuve, c'est que la première fois que Bernard Clinton s'est présenté aux élections, il y a 8 ans, la société américaine a préféré un homme, même s'il était noir, par rapport à une femme. Ça, c'est mon analyse personnelle, mais c'est vraiment ma conviction, et confirmée par cette élection. Et il y a d'autres facteurs pour cette élection, mais je ne pensais pas qu'Hillary Clinton passerait. Parce que c'était une femme. C'est pour ça que je dis il y a vraiment des paradoxes aux États-Unis. Et c'est aussi une confirmation pour dire que la place de la femme, bien que les États-Unis se prônent d'être avant-gardistes, je ne pense pas que la femme ait la place qu'elle mérite aux États-Unis. Quand on regarde la dernière femme de Donald Trump, c'est une analyse personnelle, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de soumission. Alors là où je vois, en y réfléchissant là, je pense que ça peut être dangereux, c'est que pour les États-Unis, alors là c'est vraiment différent de ce qui se passe en France. pour les Américains, ce couple de présidents, c'est un modèle. Et on l'a très bien vu dans avec les Obama. Ils ont représenté cette façon de se présenter, cette élégance et tout. Ça plaisait aux États-Unis, cette belle femme. Et on va avoir ce décalage maintenant. Et les Américains aiment s'identifier à ce couple présidentiel. We don't want your tiny hands anywhere near our underpants.
We don't want your tiny hands anywhere near our underpants. Sexisme rime souvent avec racisme. La Californie, dans certains domaines, a pris des lois tendant à atténuer ses attitudes, ses opinions discriminantes et généralement considérées comme des violations des droits de l'homme en tant qu'atteinte aux valeurs de la démocratie et de la vie en communauté. L'organisation fédéraliste des États-Unis implique que les réglementations prises par les États, le niveau de décision locale peut restreindre l'impact des lois nationales. Laura Truffaut, professeure et pour la petite histoire, fille du cinéaste François Truffaut.
J'ai l'impression qu'on va être extrêmement nombreuses ici, parce que la Californie est en immense majorité démocrate, parce que très nombreuses sont les femmes qui ont conscience que le résultat de ces élections dit quelque chose contre les femmes ou contre le statut moderne des femmes. Il est certain que, d'un point de vue national, certains de nos droits fondamentaux vont être très directement menacés. En premier, le droit à l'avortement. Maintenant, ce qui est très spécifique aux États-Unis, c'est le système fédéral qui fait que, ici, en Californie, notre droit d'accès à l'avortement ne va pas sensiblement changer. La Californie préservera ce droit. D'autres États, comme l'État de New York, etc., préserveront ces droits. C'est pour les femmes qui vivent dans des États républicains que ça va être beaucoup plus dur, beaucoup plus menaçant. Ça l'était déjà, d'ailleurs, mais ça ne le sera que plus. La question de la Cour suprême est celle qui va déterminer tout cela. Et donc, comme je me sens quand même assez protégée du fait que je suis californienne, il me semble que ce qui va le plus changer pour les femmes avec cette élection, c'est le message que cette élection véhicule, que ce résultat véhicule. C'est un feu vert qui a été donné, vous voyez, socialement, culturellement. Un feu vert aux ennemis du politiquement correct. Personnellement, je compte participer à la marche parce que il me semble que c'est important pour les immigrés, clandestins ou pas, ou fraîchement immigrés, pour d'autres minorités, de voir qu'ils ne sont pas seuls dans leur combat. On a beaucoup avancé socialement aussi ces dernières années, sous le gouvernement Obama, la reconnaissance des droits des homosexuels, de la communauté transgenre, etc. C'est encore quelque chose en dents de scie. Je pense que l'élection de Trump indique certainement que cette évolution des mœurs ne se fait pas facilement pour tout le monde, c'est normal, les choses se font par sursaut, mais l'avancée est quand même là.
Irréversible.
Oui, à long terme, bien sûr qu'elle est irréversible. Bien sûr.
Force est de constater que le discours des femmes blanches diverge celui des femmes de couleur. Erika Hughes, tête d'affiche des Black Panthers, femme engagée qui défend les droits à l'égalité et à la liberté, lutte contre le racisme et les discriminations et en faveur d'un modèle de société moins répressive et xénophobe.
We fell asleep. The big we, not me. I wasn't asleep.
Nous nous sommes endormis. La majorité, pas moi. Pour moi, l'élection n'a pas du tout été une surprise. Je suis préoccupée, bien sûr, mais j'ai longtemps vécu dans des moments très inquiétants. Et là, de nouveau, ça recommence. Cette fois, ça touche les femmes blanches et pour beaucoup d'entre elles, pour la première fois de leur vie. J'ai des amies femmes de couleur, des femmes latinas, des afro-américaines, des africaines, des femmes d'Amérique du Sud. Et toutes s'y attendaient. Qu'est-ce que vous imaginiez ? On vit dans un pays très, très raciste et sexiste. Je vis en Californie car c'est un peu plus facile dans un sens pour parler. Mais même la Californie a construit les plus grandes prisons des États-Unis et concentre un maximum de détenus. Oui, dans la brillante et ensoleillée Californie, même si cette semaine, c'est la tempête et les pluies. Mais d'un coup, je me sens un peu plus libre de parler ici que je ne le ferais au Texas ou dans le Tennessee. Mais on est tous dans le même pays et le système nous touche de la même façon. Mon amie blanche pleurait et disait, elle répétait, comment est-ce arrivé? Comment est-ce possible? Oh mon Dieu, qu'allons-nous faire? C'est dangereux. Et moi, je lui répondais, est-ce que vous avez arrêté de tirer sur les femmes et les hommes noirs et sur ceux qui ont la peau marron? Souvent, il y a des morts. Et elle disait, oh oui, c'est trop terrible, je suis désolée. Mais voilà, maintenant, ça touche la vie des femmes blanches directement. Seulement parce qu'on a un homme grossier qui a oublié qu'il était en campagne présidentielle et qui a dit ce qu'il pensait vraiment des femmes et ce qu'il ferait avec elles. Mais c'est comme ça que les gens de couleur sont traités ici depuis des décennies. Alors voilà, beaucoup de choses peuvent changer, mais tout dépendra de son équipe et de la Cour suprême. Ce cabinet a déjà pris la décision, par exemple, que la police pouvait avoir recours à la violence en toutes circonstances. Et c'est ce qu'elle a déjà commencé à faire. Ils peuvent aussi revenir sur le droit à l'avortement et ne l'accorder que dans certains cas, le viol, l'inceste. Et dans ce cas, comme toujours, cela pénalisera d'abord les femmes les plus pauvres.
La forte augmentation de la violence policière contre les Afro-Américains a fait naître un nouveau mouvement, Black Lives Matter, la vie des Noirs compte. Par solidarité ou peut-être aussi pour se prémunir de la violence, de nombreux commerçants ont affiché ce slogan sur leurs vitrines, comme ce restaurant ici à Oakland où travaille Jessica.
Je trouve que c'est important d'afficher ce panneau « Black Lives Matter » pour que ce soit respecté par les policiers. C'est un vrai sujet. Pourquoi leur vie n'est pas considérée comme égale à celle de tout le monde?
Pensez-vous que les choses vont changer avec la nouvelle administration Trump?
Je pense que beaucoup de choses vont changer et je me sens concernée.
Quoi?
Les droits des minorités, et ceux des femmes en particulier. Et plus précisément, les sujets qui touchent la santé, l'accès aux premiers soins, à l'avortement. Globalement, je pense que les droits des femmes doivent progresser et non reculer. Ça me touche. Nous avons vu avec la campagne d'Hillary la différence injuste entre les hommes et les femmes. Et ce n'est pas normal. J'aimerais que cela évolue, qu'il y ait plus de progrès, même si ici, en Californie, on a déjà avancé.
Vous pensez que Trump est misogyne?
Oui, absolument.
Vous comprenez que des femmes aient pu voter pour lui?
Oui, je comprends. En fait, ma propre mère a voté pour Trump. J'ai du mal à comprendre. Il m'a fallu du temps, mais j'ai essayé. C'est une femme latino de San Francisco Est. On a vécu dans un quartier pauvre. Mais c'est aussi une républicaine et très catholique, donc très conservatrice. Je pense que beaucoup de gens ont voté Trump, non pas parce qu'ils sont d'accord avec lui ou avec ce qu'il dit, mais ils en ont marre des politiciens, et lui, il ne l'est pas. Les gens voient en Trump un outsider, un homme hors des partis républicains et démocrates, et c'est ça qu'ils cherchent en lui, un homme hors du sérail.
Allez-vous manifester ?
Oui. Je n'ai pas encore décidé si j'allais à la marche des femmes à Oakland ou à San Francisco. Mais j'irai marcher avec les femmes et les hommes. Je connais beaucoup de gens qui vont à Washington. J'aurais aimé aller avec eux, mais je ne peux pas. C'est important de montrer au milieu politique que nous sommes bien là et que nous sommes prêts à nous battre pour l'égalité.
Oui, je suis une femme. Je suis née femme. Je suis comme ça. Et je suis une femme de couleur. Ce qui change radicalement ma façon d'avancer dans le monde, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des endroits où je ne peux toujours pas aller et où vous pouvez aller. Il y a encore des choses que je ne peux pas faire et que vous pouvez faire parce que je n'ai pas le privilège de la peau, le privilège d'avoir la peau claire. Mais par rapport à quelqu'un qui a la peau très foncée, j'ai des privilèges. Tout est relatif. Ce que je veux dire, c'est que c'est important de distinguer une femme d'une autre. C'est ainsi, c'est comme ça. Et on n'aime pas en parler, parce que si on en parle, cela crée des séparations. Mais non, au contraire, cela nous rapproche de savoir, de reconnaître les différences. Ça crée une histoire basique commune. J'ai rencontré une jeune femme hier. J'étais en train de me décrire. Je suis une femme, une afro-américaine. Je suis une grande femme, avec un corps en forme. Je peux écouter, je peux bouger, je peux marcher, je peux goûter, je peux toucher. J'étais professeur et maintenant je suis éducatrice. Je suis une mère, une grand-mère, une fille, une sœur. Et il y avait cette jeune femme qui me regardait avec des grands yeux quand je disais cela. Alors je lui ai demandé, voulez-vous jouer avec moi et vous décrire à votre tour? Elle répond, les gens disent que je suis afro-américaine à cause de ma tignasse. Et c'est vrai, vraiment, elle avait de très beaux cheveux. Alors je lui ai dit, dites-moi, quelle est votre origine? Elle m'a dit, je suis afro-américaine et cambodgienne. Voilà, pas besoin de poser davantage de questions. Je sais que sa vie est différente de la mienne et en même temps, elle lui ressemble, car la police ne va pas nous traiter différemment toutes les deux.
We are the United States of Women.
The United States of Women.
The United States of Women.
En Californie, une sénatrice a démontré qu'en moyenne, une femme gagne entre 79 et 84 cents quand un homme obtient, lui, un dollar. Un écart rikiki, mais qui atteint sur un an un manque à gagner de 40 000 dollars. Du bas en haut de la société américaine, les différences de paie malgré un travail égal indigne. Jennifer Lawrence, l'actrice la mieux rémunérée d'Hollywood, a révélé qu'elle avait empoché 52 millions de dollars, soit 30 millions de dollars de moins que son collègue star masculin. Les vedettes dans l'industrie du cinéma en ont fait une chanson. Pour proscrire l'inégalité des revenus, l'État de Californie a adopté la loi California Fair Play Act, qui garantit la parité des honoraires pour tout travail similaire en substance, sans différence de titre ou de lieu. Ce qui déboussole une grande partie des Américains, c'est que Donald Trump peut dire tout et son contraire. Pour essayer de comprendre pourquoi, rappelons aussi qu'il a été élu parce qu'il n'appartenait pas au sérail politique, il ne bénéficie pas d'emblée des soutiens institutionnels, ni à l'intérieur du Parti républicain, où beaucoup d'élus se méfient de lui, ni des agences de renseignement, ni de certains hauts gradés de l'armée, etc. Et donc, le nouveau président jongle oralement pour plaire et rallier les sceptiques dont il a besoin pour gouverner. Toutefois, les choix de celles et de ceux qui l'entourent à la Maison-Blanche donnent pourtant bien le ton de la politique qu'il entend mener. Richard Weimer, ingénieur.
Certains domaines peuvent être touchés et d'autres pas. Justement, ce matin, dans la presse à propos de l'éducation, sujet très controversé, la femme que Trump s'apprête à nommer à la tête du ministère de l'Éducation nationale des États-Unis est une millionnaire qui est censée s'occuper des écoles publiques. Mais elle estime que les établissements publics ont échoué et elle envisage de transférer aux écoles privées une partie de l'argent versé au public et ainsi donner le choix aux parents de décider de leur école. Ce qui veut dire que le système public, qui va déjà très mal, ne va pas s'arranger. Ce sera pire. Mais dans le même temps, j'ai lu aujourd'hui qu'en fait, le gouvernement fédéral ne peut pas vraiment changer ce qui est décidé au niveau des États, des autorités locales. Donc pour la Californie, ça aura moins d'impact que pour les États qui préfèrent retirer l'argent des écoles publiques.
Si l'administration de Donald Trump prend des décisions concernant l'immigration, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact ici en Californie ?
Cette question de l'immigration et en particulier pour les femmes est importante, car la majorité des travailleurs domestiques sont des femmes. Elles sont employées principalement dans l'hôtellerie ou à domicile, mais elles ne bénéficient pas des mêmes droits que les autres travailleurs, en raison d'une loi qui remonte aux années 30, un accord salarial qui les exclut. En Californie et dans quelques autres États, nous venons d'adopter de nouvelles législations pour atténuer cet accord et donner davantage de droits. Par exemple, dans cet hôtel, les femmes qui y travaillent sont sous-payées par rapport au minimum salarial. Et donc entre ça et le salaire minimum, ce sont les femmes qui sont le plus touchées, davantage que les hommes. L'immigration, ça c'est un sujet pour lequel on doit s'inquiéter. Et actuellement, il y a de fortes craintes et d'angoisses chez les immigrés de Californie. Car dans cet État, ils sont très nombreux. Ils viennent prioritairement d'Amérique centrale, via le Mexique. On va probablement réussir à trouver les moyens de les garder. Mais les Latinos sont préoccupés. Ils sont 11 millions dans le pays. On a peur de tout ce qui peut arriver. Et on vit avec ça tous les jours. Ma femme est impliquée dans la vie publique et prend donc le pouls quotidiennement. Et on se fait du souci. Avec mes amis, on ne veut pas trop parler de la situation, mais ça revient toujours sur le tapis. Alors on essaie de ne pas prononcer son nom, on dit « cet homme ». Je vais participer à la marche des femmes à Oakland, c'est important. Je sais que des gens vont se rendre à Washington, mais je pense que c'est mieux de marcher localement, et c'est ce que je vais faire, samedi 21.
Parmi les changements envisagés par Donald Trump, l'un des plus controversés concerne la santé, c'est bien sûr l'Obamacare.
Je suis Eric Snowé, je suis médecin urgentiste.
Et Sophie Barvan, cardiologue, basée à Oakland aussi.
Et donc vous êtes en première ligne pour voir les effets d'Obamacare.
Tout à fait, en fait, on a vu des jours un peu noirs il y a 10 ans, 15 ans, où les gens étaient essentiellement sans assurance. En fait, on servait de base, en fait, pour en fait, prendre en charge les gens qui n'avaient pas de moyenne. Et on a vu, en fait, avec Obamacare, une grosse majorité de ces gens qu'on voyait avant se retrouver avec une assurance, des options, des possibilités, des médecins traitants.
Parce que les gens que vous soignez, qui bénéficient maintenant d'Obamacare, ce sont des gens qui ne se soignaient pas avant ?
Non, ils se soignaient, mais en fait, dans un système complètement différent, où on était une espèce de filet de sûreté pour eux. Et donc, on ne pouvait pas, avec les fonds qu'on avait, développer le même type de médecine au long terme. C'était plutôt une médecine d'urgence, si vous voulez.
La santé, c'est comme près 18% de l'économie américaine. L'idée qu'on puisse changer ça le jour au lendemain, quand ce sont tellement de gens, tellement de personnes, tellement d'économies, d'industries sont concernées par ça, ça paraît impossible de changer dans la manière dans laquelle ils disent qu'ils vont le faire. Bon, c'est clair que c'est cher et ça augmente tous les ans, entre 5 et 7 et 8% tous les ans. Et ça continue avec Obamacare. Et la différence, en fait, c'était que les gens, ils étaient obligés de participer avec Obamacare, les employeurs et les employés à la fois. Et donc, ils étaient forcés plus ou moins de participer à un système qui est cher et qu'il est déséquilibré et pas toujours efficace pour les gens. Mais bon, c'était quand même mieux de réaliser que 25 millions de personnes ont trouvé une assurance qu'ils n'avaient pas avant. C'était grâce au gouvernement qui donnait des subventions aux gens qui n'avaient pas assez de moyens pour acheter leur propre assurance.
Je voulais ajouter à ce qu'Eric a dit, qu'en fait, il y a peut-être quelque chose que Trump gardera après avoir parlé à Obama. On ne sait pas, parce qu'il change très souvent d'avis, cet homme.
Il y aura une manifestation de blouses blanches devant l'hôpital qui va être en solidarité avec les gens, avec des médecins à San Francisco qui vont faire pareil. À mon avis, c'est une chose qui va se reproduire dans tout le pays.
En faveur d'Obamacare.
En faveur d'Obamacare et en faveur, en fait, pour justement défendre nos patients qui risquent leur vie si on changeait ça. Et il y aura aussi une promesse de part des médecins et des hôpitaux dans certains secteurs de protéger nos patients, de continuer à servir nos patients malgré les insistances du gouvernement fédéral et de l'administration de Trump. On peut continuer à défendre les gens qui sont défavorisés, qui sont vulnérables dans notre société. Et on y tient justement à les protéger, à être là pour eux.
Parmi les décisions décisives que le nouveau président devrait prendre très rapidement, la nomination du 9e juge de la Cour suprême. Actuellement, le temple du droit américain est occupé par 4 magistrats libéraux, 4 conservateurs, 6 hommes et 2 femmes, nommés à vie, choisis par l'hôte de la Maison-Blanche et validés par le Sénat, qui est aujourd'hui majoritairement républicain. En juin 2016, par 5 voix contre 3, les juges ont réaffirmé le droit des femmes à avorter, abrogeant une loi du Texas qui visait à limiter l'accès à l'interruption de grossesse. 44 ans après l'arrêt Roe v. Wade, décision historique de la Cour suprême de légaliser l'avortement aux États-Unis, les pro-choice sont encore inquiétés par les pro-life qui peuvent désormais compter sur le soutien du nouveau président. Donald Trump n'a pas caché sa préférence pour un juge anti-IVG pour remplacer le juge conservateur Anthony Scalia, décédé en février 2016. D'autres sujets seront présentés à la Cour suprême. Paul Vogel, avocat qui plaide devant la Cour d'appel et la Cour suprême.
Aux États-Unis, les membres des syndicats paient des cotisations. Et suite à un arrêt de la Cour suprême il y a 20 ans, 25 ans, quand le syndicat voulait utiliser une partie de ses cotisations pour des raisons politiques, par exemple pour pousser ou pas pousser une loi auprès du Congrès, le membre du syndicat pouvait dire « je ne veux pas que mes cotisations soient utilisées pour ce but ». Donc, il y a 5 dollars, disons, 5 dollars des 20 dollars qui vont être mis de côté. Maintenant, il y a 2 ans, un membre du syndicat a contesté cet arrêt de la Cour suprême en disant que ça enfreignait ses droits de la libre parole sous le premier amendment. Et donc, cet arrêt que la Cour suprême avait annoncé il y a 25 ans est maintenant mis en question. Et quand le cas est passé devant la Cour suprême, les arguments étaient très vigoureux sur les deux côtés. Et donc, la Cour a décidé de ne pas rendre une décision, ce qui était un signe que la Cour est divisée 4-4. Donc, ils ont reporté l'affaire à cette année, pensant qu'on allait avoir un 9e juge. Si ça réussit, ça met en question l'existence des syndicats, parce que s'ils ne peuvent pas déduire une partie des cotisations pour les raisons politiques, ils ne vont pas pouvoir ramasser quoi que ce soit comme cotisation, et sans cotisation, ils vont mourir. Avec un juge conservateur, le conservateur va probablement casser l'arrêt il y a 25 ans, ce qui va mettre en question l'existence même des syndicats. Donc, vous voyez que c'est très, très important. Ça montre comme un vote de la Cour suprême peut changer une loi qui s'applique à beaucoup de monde. C'est la même chose avec l'avortement, c'est la même chose avec affirmative action, c'est la même chose avec gun control, parce que la Cour suprême actuellement est divisée. Il y a beaucoup d'arrêts qui sont annoncés 4 à 5, gay marriage, par exemple, c'était un arrêt 4 à 5. Il y a plein de lois, les législatures étatiques, surtout dans les États très conservateurs, comme Oklahoma, par exemple, Indiana, South Dakota, les red states, comme on dit, ils essaient de frustrer le droit de l'avortement en le rendant plus difficile, en disant que les cliniques d'avortement devraient avoir certaines procédures. Ce que je peux vous dire, c'est que les législatures des États vont oser maintenant de passer des lois qui contestent, sinon l'existence même du droit de l'avortement, ils vont essayer de faire plus difficile la reconnaissance du droit.
Vous pensez que cette décision de nommer le 9e juge à la Cour suprême, ça va être une des premières choses que Trump va faire?
Oui, il a même dit, parce qu'il a dit qu'il veut quelqu'un confirmé dans les premiers 30 jours de son administration. Moi, je pense qu'il va nommer pendant les premières 2 semaines.
USA, le deuxième sexe en première ligne. C'était un reportage en Californie de Nadine Epstein. Vous écoutez le magazine de la rédaction sur France Culture et on retrouve aux côtés de Nadine Epstein notre invitée Caroline Roland Diamond, professeure en histoire et civilisation américaine à Paris-Nanterre. Tout commence aujourd'hui à poster Donald Trump sur Twitter au Ceux du Lit. C'était ce matin à Washington et le nouveau président américain va être investi, va prononcer son serment dans un peu plus d'un quart d'heure. Mais qu'est-ce qui commence véritablement aujourd'hui, Caroline Roland Diamond?
Écoutez, ça va être la reconquête du pays. Alors lui, il a annoncé qu'il voulait redonner sa grandeur à l'Amérique, aux États-Unis, et la grandeur, selon Trump, à différents, une série de volets. Et alors il va commencer donc à très très vite. Hein, il a annoncé donc peut-être pas dès aujourd'hui, mais en tout cas dès lundi, à prendre une série de décrets qui visent à détricoter différents décrets qui avaient été pris par Obama. Et donc il a annoncé plusieurs thèmes d'action très rapides. Donc non seulement défendre le droit du port d'armes, ça il l'a mentionné très clairement. Agir contre les immigrés en situation irrégulière ayant eu maille à partir avec la loi. Et après, dans un deuxième temps, il s'attaquera aux autres.
L'ensemble, hein.
Et puis, on vient de le voir, l'entendre dans ce reportage, la question de la nomination à la Cour suprême, ce siège vacant qui ne va pas le rester très longtemps.
Bon, vu par vous, alors c'est pas si erratique que ça. On a l'impression, et on a eu l'impression pendant la campagne présidentielle, que Donald Trump, c'était un peu tout et son contraire. Mais il y a quand même une ligne directrice, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la politique qui se joue.
Alors je pense qu'on est peut nous surprendre. Hein. On est vraiment prêt à tout.
Il a effectivement
annoncé beaucoup de choses, puis son contraire. Il a également annoncé des choses que c'est conseillers les plus proches ou les personnes qu'il a pressenties pour être nommées, faire partie de son cabinet, ont démenti. Donc là, on est dans l'incertitude quand même assez la plus complète. Là. On attend de savoir ce qui va se donner.
Alors, qu'est-ce qui commence aujourd'hui? On verra. Qu'est-ce qui s'arrête? Qu'est-ce qui s'achève aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un espoir qui s'en va aux États-Unis, au moins momentanément, peut-être pour quelques années?
Il y a l'espoir qui avait été ouvert par l'entrée d'Obama à la Maison-Blanche, l'élection historique s'il en était, le premier noir à la Maison-Blanche, et pendant ces 8 années de pouvoir Obama, il y a eu cet espoir quand même qui a accompagné d'une réconciliation de la population américaine qui puisse franchir ces divisions. Alors, l'espoir, il a très vite été atténué par la réalité des choses, mais quand même, il a perduré, et on le retrouve d'autant plus aujourd'hui qu'on regarde avec nostalgie l'Amérique d'Obama, vu à ce premier jour de l'Amérique de Donald Trump.
C'est-à-dire que finalement, avec Donald Trump, il y a les risques d'accroissement, de clivage social, sociétal, soit entre les communautés, soit même entre démocrates et républicains, même aussi rien qu'avec les jeunes, tous ceux qui ont voté pour Bernie Sanders, par exemple.
Mais je pense qu'il y a effectivement plus qu'un risque. Je pense qu'il est très prévisible que les clivages vont s'aggraver dans l'Amérique de Donald Trump. Vous évoquiez les clivages démocrates-républicains. On a déjà eu cette annonce très étonnante pour une cérémonie d'investiture qui a plus d'une vingtaine d'élus démocrates qui la boycottent. Bon, dans la lignée de voilà, de cet élu noir. Et alors, premier clivage, effectivement, les clivages, clivage entre les communautés donc ethno-raciales, on peut l'affirmer, ces tensions ne vont pas disparaître. Elles s'étaient déjà accrues, l'Amérique s'était polarisée sous Obama, elle va continuer de l'être sous Donald Trump.
Des manifestations assez mouvementées se déroulent en ce moment à Washington pendant la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Avant de parler de la cause des femmes, c'est le thème de ce magazine, des femmes qui vont manifester demain à Washington et puis en Californie également. Est-ce que vous craignez, Caroline Roland-Diamond, un climat de violence dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, et peut-être même de façon un peu plus larvée dans les années qui viennent aux États-Unis? Un climat de violence dure?
C'est possible. Je pense que c'est effectivement une crainte qu'il faut avoir. C'est tout. Je pense que les gens qui manifestent aujourd'hui, donc avec ces débordements qu'on peut voir sur les images qui nous arrivent des États-Unis.
Bon, pour l'instant, ce sont quelques vitrines cassées, l'œuvre de quelques centaines de Black
Blocs. Mais voilà, c'est un signe de quelque chose, c'est un signe de tension, de malaise, et je pense que ça ne va pas disparaître. Donc tant qu'il y a cette libération qu'on a vue dans la campagne et qui va continuer, libération de la parole raciste, d'une violence également donc sexiste, on va y revenir, qui entraîne la violence.
Et puis les policiers vont être un peu plus libres qu'avant, hein. Il y a déjà des annonces qui ont été faites en ce sens.
Bien sûr, c'était c'est un des messages qu'il entendait faire passer. Je pense que le message a été entendu.
Dès lors, le racisme peut grandir, notamment pour les Noirs, les Afro-Américains. Comment Trump va se comporter avec cette population? On a déjà vu le racisme grimper avec Obama. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de revanche, entre guillemets?
Ça a été effectivement beaucoup analysé en ce sens et je partage cette interprétation. Trump a fait des déclarations pendant la campagne très violentes envers la communauté africaine-américaine, qu'il a réduit à des stéréotypes sur la pauvreté des ghettos, sur la criminalité. Et ces déclarations ne vont pas être oubliées du jour au lendemain. Donc elles vont continuer et ça a libéré toute une parole raciste. Et on voit depuis même son élection, depuis novembre, une multiplication des actions racistes, des actes racistes de blancs qui ont un sentiment de revanche. Et là, ils sentent que le message qui est passé est celui d'une impunité.
Et puis, j'ai remarqué que la façon de parler ou la façon de percevoir était différente si vous parliez à un blanc et à un noir.
La façon
on
de
l'a
parler.
Entendu ouais. La représentante des Black Panthers, elle explique bien que, par exemple, on est toutes les deux, elle me dit ok, on est femmes toutes les deux, mais il y a une grande différence et cette différence, il faut pas la gommer parce que c'est ne pas tenir compte de la particularité de chacun d'entre nous.
Bien sûr, c'est pas moi qui vais dire le contraire, après avoir écrit le livre que j'ai écrit sur cette histoire de l'Amérique noire, effectivement, il y a un ressenti très différent et qui repose sur une histoire longue. Une histoire de différence de traitement, de discrimination qui... Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de progrès réalisé au fil des décennies. Bien sûr qu'il y en a eu. Mais la différence reste là. Et elle est très forte. Et elle était déjà ressentie pendant les années Obama. Mais là, elle est d'autant plus ressentie aujourd'hui par la communauté africaine-américaine. Donc, ce qui les fait sourire, c'est qu'aujourd'hui, il y a de nombreux blancs qui tout d'un coup disent « Ah oui, mais attention, c'est dangereux ce qui va se passer ». Or, les Noirs le disent depuis bien longtemps.
Oui, c'est ce qu'on a entendu très bien dans votre reportage, Nadine.
Et ça veut dire que les mesures pour l'emploi, par exemple, annoncées et promises par le nouveau président, s'il y arrive, s'il le fait, ça veut dire que ces mesures vont être bénéfiques qu'à une certaine part de la population ciblée, c'est-à-dire les Blancs américains?
Les mesures ne vont pas être prises de cette manière-là. Elles ne vont pas cibler, elles vont avoir un volet de discrimination ouverte. Mais il est. Alors, on attend de voir ce qui va sortir de ces annonces. Et on a vu quand même qu'après les annonces du renforcement du protectionnisme et de menaces de rétorsion, en cas de non-rapatriement des emplois sur le territoire américain, on a vu quelques entreprises déjà réagir, aller dans ce sens. Donc, peut-être qu'il y aura création d'emplois. Il faut voir quel type d'emploi et à qui ça va bénéficier. Et on sait que le mouvement ouvrier est très américain est très affaibli aujourd'hui. Les syndicats sont vraiment ont du mal à résister contre toutes les attaques qu'ils doivent subir.
J'aimerais qu'on en vienne maintenant à la cause des femmes. C'est le sujet de ce magazine. Girls Bite Back, lit-on déjà là sur les t-shirts de quelques manifestantes qui sont déjà présentes à Washington cet après-midi ou ce midi à l'heure de Washington pour l'investiture de Donald Trump. Une grande manifestation nationale est prévue à Washington. D'autres sont également prévues en Californie. Comment est-ce que vous voyez les choses évoluer sur cette cause des femmes, et notamment sur la question de l'avortement, dont il a beaucoup été question dans le magazine de Nadine Epstein? Jusqu'où on peut aller? Vous parliez tout à l'heure de détricotage avec l'Obamacare. On sait également que l'accord sur le nucléaire iranien va être probablement attaqué par Donald Trump. Sur la question de l'avortement, on peut aller jusqu'où, en considérant tous les contre-pouvoirs qui s'opposent évidemment au président, ou qui peuvent s'opposer au président américain dans la Constitution?
Je pense qu'on peut aller très loin. Et c'est d'où l'inquiétude des femmes et leur mobilisation massive, qu'on voit déjà donc aujourd'hui dans les rues, mais qui sera vraiment manifeste demain. Sur la question de l'avortement, la question qui se joue, c'est la nomination à la Cour suprême.
C'est le 9e juge, voilà.
Voilà, le 9e juge. Donc on a pour l'instant une situation de blocage. Donc depuis le décès du 9e juge à la Cour suprême, Scalia, en février dernier, on oublie, les républicains au Sénat ont bloqué toute nomination. Proposé par Obama, pour donner, dans l'espoir que Donald Trump soit élu, pour donner à Trump cette possibilité de faire cette nomination décisive. Or, l'avortement est protégé aux États-Unis grâce à cet arrêt de la Cour suprême de 1973. Or, une nomination d'un juge ouvertement anti-IVG, comme c'est ce qui a été annoncé par Trump, il a clairement dit que s'il avait la première nomination et puis celle qu'il aurait... Il va peut-être avoir l'occasion de faire.
Il y a peut-être deux autres.
Parce que deux autres sont âgés.
Deux ou trois autres. Il y a deux autres, les autres membres respectivement, de 80, 83, 78 ans. Donc on ne sait pas combien de temps on peut se maintenir. Ils ont toutes leurs facultés. Ils sont tout à fait en état de rester juge à la Cour suprême. Mais il a pour l'instant l'opportunité de faire une nomination. Et n'oublions pas que le juge qu'il pressent pour nommer à ce poste décisif, le 9e poste, est William Pryor. Donc un juge d'Atlanta, qui a fait cette déclaration, qui a le mérite d'être clair. Donc il a dit que l'arrêt Roe versus Wade, donc de 1973, était, selon lui, la pire abomination du droit constitutionnel de l'histoire américaine.
Donc les choses sont claires, mais est-ce que dans le cadre de cette nomination, les choses peuvent évoluer vite et jusqu'où?
C'est toute l'idée de la nomination. L'idée, c'est qu'une fois que le 9e juge est nommé, il n'y a plus que 4 juges sur 9 qui défendent des causes progressistes. Donc tout peut basculer assez rapidement.
Dès lors, quel est le rapport de force entre les lois nationales ou les décisions et le pouvoir local?
Donc c'est tout le système du fédéralisme américain qui est je vais résumer très très brièvement. Donc effectivement la Cour suprême, c'est la plus haute instance judiciaire au niveau fédéral, et alors c'est la loi suprême du pays. Mais on sait bien qu'il y a une division des responsabilités, des pouvoirs aux États-Unis, qui fait que la plupart des questions relèvent du pouvoir des États fédérés. Or, donc sur la question de l'avortement, ce qui va se produire, c'est que différents États vont passer des lois qui vont limiter l'accès à l'avortement, limiter donc voilà les possibilités pour les cliniques de fonctionner normalement. Et en cas de recours devant les tribunaux, la Cour suprême, si elle est saisie, les confortera dans leur décision.
Nadine ?
Il y a aussi des orientations que Trump a données en dehors de ses promesses, et aussi les choix des ministres. Bon, bien sûr, ils doivent être encore validés par le Congrès. Et bon, on a entendu dans le reportage le cas de la ministre de l'Éducation nationale, mais il y a aussi celui qui va être en charge du logement, hein, qui est un noir connu parce que chirurgien et qui a réussi une première mondiale de séparer des Siamois, qui a été un Afro-Américain, donc qui a grandi dans les quartiers pauvres de Détroit et de Boston, Ben Carson, et qui lui, il est comme Trump, hein, provocateur, conservateur, démagogue, incorrect politiquement, et il a en charge un ministère, le ministère du logement. Alors on sait que depuis 2000, le nombre de quartiers de grande pauvreté a doublé, particulièrement les banlieues où vivent principalement des familles noires.
Effectivement, Ben Carson, il incarne cette tradition qui existe depuis donc des décennies, d'un conservatisme noir, et qui met en avant cette idéologie de l'élévation individuelle par le travail, etc. Donc lui, il incarne tout à fait ça. Donc il a grandi, vous venez de le rappeler, dans ces quartiers pauvres, et il a réussi donc, à devenir chirurgien, neurochirurgien de grand renom. Et puis surtout, il s'est fait connaître quand il était candidat donc, à la primaire républicaine. Mais sa nomination est on ne peut plus inquiétante pour de très nombreux Américains, en particulier donc, les plus défavorisés, ceux qui reposent, qui ont besoin de logements sociaux, car ce qui est annoncé au sein de son ministère, c'est que lui, il remet en question l'importance de ce type de financement, et donc il est tout à fait pour une réduction très nette des coupes budgétaires sur ce type d'action.
Il y a des menaces donc plus ou moins directes sur les femmes, sur les minorités, sur les catégories défavorisées aux États-Unis, Caroline Roland-Diamond. Mais on entendait que le problème était aussi peut-être plus pernicieux et que le problème, notamment en ce qui concerne la cause des femmes, était de l'ordre du climat qui allait s'installer pendant 4 ans aux États-Unis. Comment est-ce que vous voyez les choses se faire à ce niveau-là, au niveau du climat qui va régner dans ce pays pendant 4 ans?
La parole libérée, on l'a souvent entendu.
C'est tout à fait ça. Il y a une libération de la parole sexiste, d'une misogynie qu'on n'avait pas entendue depuis très longtemps. Et c'est aussi ça. C'est la victoire de Trump, c'est aussi ça. Il a fait campagne avec des déclarations choquantes pour une grande partie du pays, en particulier pour la moitié féminine du pays. Et là, son arrivée au pouvoir laisse entendre que tout est permis, qu'on peut tout dire et tout faire. Il a donc, ça a été bien rappelé dans votre reportage, donc il a non seulement fait des déclarations choquantes, mais également on l'a accusé de harcèlement sexuel et autres méfaits.
Voilà, et pourtant il va bien prêter serment dans maintenant 2 minutes à Washington. Son vice-président Mike Pence vient de le faire. Merci Caroline Roland-Diamond. Je rappelle que vous êtes professeure en histoire et civilisation américaine à Paris-Nanterre. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le magazine de la rédaction. Vous avez publié aux éditions La Découverte, je le rappelle, Black America, une histoire des luttes pour l'égalité et la justice du 19e au 21e siècle. USA, le deuxième sexe en première ligne. C'était un reportage de Nadine Epstein, réalisé par Annie Bro. À la régie ce soir, c'était Stéphane Poitvin. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr.